Nous poursuivons toujours nos lectures dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 13, les versets 44 à 52. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Quelqu'un le trouve et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il a trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet qu'on a jeté dans la mer et qui attrape toutes sortes de poissons. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau, puis s'assoient pour trier les poissons. Ils mettent les bons dans des paniers et rejettent ceux qui ne valent rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les bons pour les jeter dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents. Avez-vous compris tout cela ? Leur demanda Jésus. Oui, répondirent-ils. Il leur dit ainsi donc, tout spécialiste des Écritures qui devient disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Vous en avez de la chance. Vous avez aujourd'hui trois paraboles pour le prix d'une. C'est un peu la promo de l'été, avec la glacière, les tongs et le parasol offert. Vous partez gagnant. Les trois textes que nous venons de relire essaient, et ne sont pas les seuls, de dire ce qu'est le royaume. Chacun à leur manière, un trésor caché, un chasseur de perles rares et un filet de pêche. Ce n'est pas une anomalie ou une bizarrerie que Matthieu utilise autant d'images différentes pour essayer d'expliquer ce qu'est le royaume des cieux. Il ne cesse de le faire dans cette longue succession de chapitres qu'on appelle les paraboles du royaume. L'expression d'ailleurs royaume qui est au complet dans Matthieu, royaume des cieux, et non pas royaume de Dieu, est cité 22 fois dans ces chapitres. Vous voyez à quel point c'est au centre de ses préoccupations. C'est une bonne chose d'expliquer, d'utiliser des images simples pour essayer d'expliquer des choses difficiles, difficiles à saisir parce qu'elles sont encore à venir. Gérer l'existant, vous le savez, ce n'est pas toujours facile. Il y a des résistances, de l'inertie, mais alors travailler sur de l'inexistant, sur du pas encore là, c'est vraiment une autre paire de manches. Dans l'image première du royaume, il y a un lieu. Quand on pense royaume, on pense à un lieu, un territoire. C'est l'image qui s'est imposée il y a longtemps et qui est encore présente dans nos esprits. Mais il ne faut pas oublier que le mot grec renvoie ici dans ce texte et dans toutes les autres paraboles du royaume, c'est le même mot qui est utilisé. Ce mot renvoie autant à royaume tel que nous pouvons le comprendre qu'à un autre mot qui signifie règne en réalité. Les deux réalités ne se recoupent pas. Le royaume renvoie effectivement à un territoire avec des frontières qui déterminent un dehors et un dedans, un nous d'un côté et les autres de l'autre côté. C'est ça, un royaume avec son territoire et ses frontières. Le règne, lui, renvoie à l'exercice d'un pouvoir souverain. C'est la définition que vous pourrez trouver dans tous les dictionnaires ou en ligne. Exercice d'un pouvoir souverain. Ou alors, la durée de ce règne, pendant le règne de Louis XIII, le règne de Louis XIV, etc. Le royaume, c'est donc une définition géographique. Plutôt, le règne serait, lui, de son côté, une réalité historique, la réalité historique d'un pouvoir tel qu'il s'exerce, ou la conscience qu'on en a, de le subir peut-être, de sentir dans ce que l'on vit un pouvoir sur soi, une gouvernance à défaut. Au-delà du patois de Canaan, donc, le royaume désigne une certaine manière de vivre avec Dieu. C'est comme ça que nous avons fini par le traduire plus ou moins pour lui donner encore du sens. Mais on se rend bien compte que c'est encore et toujours du patois. Ça veut dire en réalité vivre en compagnie de ce questionnement incessant de l'être humain qui cherche le sens du monde et de la vie, comme l'ont fait ceux qui ont utilisé ce mot autrefois, et même préoccupation dans nos propres têtes, même si nous utilisons d'autres mots pour cela ou que nous comprenons autrement les mots qu'ils ont utilisés autrefois. Dans tous les cas, c'est une réalité encore à venir qui est très très loin des idées de royaumes plus ou moins anciens, disparus ou moribonds et qui existeraient encore. Le royaume pour nous, c'est une question à résoudre. Et c'est une question qui se déplace le long de l'axe du temps, tant mieux pour nous, parce qu'elle chemine avec nous, elle nous rend contemporains des questions de nos devanciers, elle nous invite en même temps à apporter nos propres réponses. Un royaume au fil du temps, si vous préférez. C'est comme cela que nous arrivons à lui donner du sens. Ça fait une grande différence avec la compréhension que les contemporains de Jésus avaient de l'idée de royaume. Pour eux, c'était probablement un lieu et rien que cela, parce qu'ils étaient attachés au lieu où la présence de Dieu se fait sentir et où ce Dieu règne au milieu d'eux. Ils n'avaient pas d'autre définition à disposition que celle-ci. C'était un lieu où la gouvernance de Dieu devait se faire sentir, mais où celui qui régnait à cette époque-là, Hérode, pour ne pas le nommer, encore plus détesté que Saül, il faut le faire, était considéré comme illégitime. Le besoin de se libérer de sa tutelle et aussi de la présence des Romains, évidemment, obligeait en quelque sorte à faire du royaume une réalité présente, une confrontation, presque un conflit, presque une guerre avec la géopolitique de l'époque. Mais aujourd'hui, l'idée de royaume s'est nettement sécularisée. Dieu n'est plus ou plus tellement, en tout cas pas chez nous, attendu dans l'histoire mondiale dont nous connaissons les rouages, les évolutions et les cycles. Il a un peu quitté le domaine de la géopolitique et les soubresauts qui agitent les grands empires au fil des siècles. Il règne sur nos vies individuelles, certes, et encore avec notre accord. Et les églises que nous formons sont les lieux de rencontre de ceux qui partagent ce questionnement incessant et volontaire. Dans une église résonnent les différentes réponses que nous apportons à l'appel de Dieu tel que nous le comprenons, et ces réponses s'exportent éventuellement au dehors, dans un monde qui n'en a pas forcément besoin pour suivre sa propre marche. Vous voyez à quel point la situation s'est éloignée pour nous de celle du texte. Le seul point commun peut-être encore entre notre situation et celle du texte finalement, c'est que le monde environnant n'a jamais et n'attend de nous. Il oscille entre l'indifférence et la perplexité face à notre message. Une hostilité pure et dure est quand même, faut bien le reconnaître, assez rare. C'est à se demander si le christianisme n'est pas enfin devenu ce qu'il était censé être, une religion discrète, à défaut d'être secrète, après avoir voulu pendant des siècles créer un monde chrétien, mais sans y parvenir. Les siècles qui nous précèdent ont sans doute rêvé de constituer un royaume chrétien, mais on le sait, sans succès. Les sociétés dites chrétiennes le sont de moins en moins, et ce monde est resté ce qu'il est depuis toujours, c'est peut-être sa vocation. Mais de son côté, le royaume, lui, à son tour, pourra rester ce qu'il est, un levain qui fait parfois lever la pâte sans qu'on sache exactement pourquoi et comment. Il reste donc une part de résistance entre le message biblique et ceux qui s'en réclament d'une part, et d'autre part, le monde qui en est le destinataire. Le royaume ne restera, ce principe subversif, cet appel à l'amour et à la liberté, que si le monde reste un lieu où ces choses font cruellement défaut. C'est le cas, ça tombe bien. En uniformisant tout sous la houlette du Christ et sans lui demander son avis, nous nous sommes trompés longtemps. Tous ceux qui essaient encore aujourd'hui de faire la même chose se casseront les dents sur le monde tel qu'il est, qui va leur résister encore et encore. Nos sociétés sont d'ailleurs ainsi faites, depuis peu d'ailleurs, que le concert des différentes manières de croire s'étale devant nos yeux. Des religions, des confessions différentes prennent place dans une société où 45% au moins de la population est désaffiliée, loin de toute appartenance religieuse, quelle qu'elle soit. Et le paysage a changé. Que devient l'idée d'un royaume dans ce contexte? Sa seule chance de survie, peut-être, consiste à jouer le rôle de levain dans la pâte. Mais cela, au fond, a toujours été sa vocation et cela le restera. Nous le savons aussi, depuis l'époque des prophètes, les messages subversifs passent difficilement. Modifier ou perturber une manière ordinaire de fonctionner, c'est très compliqué et très risqué. D'ailleurs, Jésus l'a payé de sa vie. Et s'il est mort, ce n'est pas parce que son message était incompréhensible, trop compliqué, malgré les paraboles. Il est mort parce que son message, parfaitement clair, ne convenait pas à un monde qui obéissait à ses propres règles. Le message était clair, mais les changements suggérés par le message coûtaient trop cher. Quelques ajustements à la marge, on fait quelques calculs, vous savez, avec sa petite calculette, ça ira, on peut se le permettre, alors d'accord. Mais tout mettre cul par-dessus tête, hors de question, trop cher. Par ces trois paraboles, Jésus nous propose encore une fois de découvrir ou de redécouvrir ce qu'est la nature du royaume ainsi que la place qui doit être la nôtre dans cet art de vivre d'une certaine manière ou avec certaines règles qui ne sont pas celles de tous. Nous possédons peut-être sans le savoir des ressources, d'ailleurs, des richesses suffisantes et insoupçonnées et qu'il nous suffit d'exploiter comme le fameux laboureur qui découvre un trésor dans son propre champ. Il est le propriétaire, finalement. Ce n'est pas parce que le monde ne veut pas fonctionner selon les règles du royaume que les règles en question viennent d'ailleurs que de nous. Nous sommes le royaume autant que le monde. Et ce conflit, ce combat entre deux manières de fonctionner commence évidemment en chacun d'entre nous. Parmi toutes les traductions possibles du grec, il faut sans doute retenir l'idée de règne plutôt que de royaume. L'idée d'un territoire, en réalité, ne nous aidera pas. Surtout si elle sert à placer des frontières où il n'est pas pertinent d'en mettre. Et puisque les différentes manières de croire se côtoient sur un même territoire, que serait la conséquence de ces tracés hasardeux si ce n'est davantage de division? Nous n'en avons pas besoin. Il est donc préférable de garder l'idée d'un règne qui est l'exercice d'un certain pouvoir ou d'une certaine influence. Et ça n'implique pas forcément une forme de despotisme ou de brutalité. En revanche, et il faut en être tout à fait convaincu, la conscience d'être détenteur, nous ici, d'un appel souverain à l'amour et à la liberté doit nous conduire à ne pas renoncer à exercer une influence sur ce monde qui n'attend rien ou pas grand-chose, ou qui préfère qu'on lui fiche la paix. Un proverbe anglais affirme « Cottage en possession vaut mieux que royaume en réversion ». Ça veut dire « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». Mais les Anglais font toujours exprès d'inventer d'autres proverbes pour se démarquer des nôtres. C'est une manie chez eux. Ça veut dire donc « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». Eh bien, il en va peut-être de même pour nous avec l'idée de règne dont il est question dans le texte d'aujourd'hui. Une certaine modestie doit nous habiter. Nous ne devons pas conquérir un monde qui de toute façon nous résistera. Mais il nous reste tout de même à revendiquer une certaine ambition à la mesure de nos moyens. Cet appel à l'amour et à la liberté, ce monde en a malgré tout bien besoin et c'est à nous de le lui faire savoir. Amen.